Et on va un peu rembobiner le fil, je dirais, de la chaîne opératoire, puisqu'on va remonter à des questions sur le matériau et vous montrer comment finalement nous, avec notre approche histoire des techniques, on arrive à des questionnements qui peuvent être liés aux objets de collection. Alors avec toute comment je dirais, la prudence nécessaire, et vous l'avez très bien illustré. C'est même parfois peut-être un peu déprimant. Est-ce que vous avez des pièces qui ne sont pas des copies ou des faux de la collection? On pourra en discuter. Non, mais là, vous avez souligné qui illustre parfaitement le questionnement qu'il faut mener. Alors, on voulait vous présenter ces recherches interdisciplinaires sur l'acier avec Catherine Vernat, parce que ce matériau, constitue une grille de lecture, un outil de lecture global, des aspects techniques de la société médiévale, et on voulait en préambule préciser ça, c'est-à-dire que ces métaux ferreux et ces aciers, on les trouve pour les périodes du bas Moyen-Âge qui nous concernent un peu plus ici, et puis de la Renaissance, dans tous les aspects de la société. Alors ça va de choses monumentales, comme le renfort des cathédrales, on pourra citer les différents travaux qui ont été effectués sur ce point-là, par notamment Maxime L'Héritier, Philippe Bernardi et moi-même, jusqu'à des objets, alors là ce sont des barres très peu élaborées, jusqu'à des objets dont vous avez eu quelques exemplaires présentés précédemment, comme les armures ou les armes, qui peuvent être extrêmement sophistiquées, et c'est l'ensemble de cette sophistication que l'on peut déjà trouver au sein du matériau qu'on va essayer d'aborder. Alors on notera les travaux d'Alan Williams, qui a sorti de nombreux ouvrages là-dessus, je cite le plus volumineux et un de ceux assez importants, The Night and the Blast Furnace, sur lequel dans ce livre que je montrerai à la fin de notre exposé. Et puis, de manière plus générale, vous pouvez vous référer, c'est jamais mauvais de se faire un peu de publicité, à un ouvrage qui est la synthèse d'un colloque qui s'était tenu en 2005 au CNAM, co-organisé avec Catherine Vernat et Liliane Pérez, qui visait à faire le point sur l'acier en Europe avant les procédés du 19e, avant Besmer. Vous en avez un exemplaire sur la table. On citera également l'outillage, les tranchants, d'outils, les limes, mais également les fers à moulin, c'est très important, qui contiennent des pièces à cirer, et bien évidemment l'armement. Alors on va d'abord définir ce matériau. Je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer avec des courbes et des schémas, mais bon, nous sommes interdisciplinaires, donc nous allons devoir en voir quelques-uns, et simplement pour vous expliquer que ce matériau est assez intéressant puisqu'il a des propriétés particulières adaptées à des usages spécifiques. Il est à la fois dur, plus dur que d'autres matériaux comme le fer pur, résistant à la rupture, ce qui permet donc de faire tranchant, mais également des protections, des armures, des armes et des outils. Alors c'est, pourquoi est-ce qu'il est dur? Eh bien, c'est parce qu'il contient plus de 0,2-0,3% de carbone, de 0,2 à 2% de carbone, ce sont les aciers. Et ça, évidemment, cette définition-là, elle n'est arrivée qu'à la fin du 19e siècle, avec les développements de la chimie comme on la connaît maintenant, mais également la thermodynamique qui a pu expliquer l'ensemble du comportement de ces aciers. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que certes, si la définition chimique de l'acier date du 19e siècle, le repérage de l'acier et l'utilisation existent quasiment dès les débuts de la métallurgie des alliages ferreux, dès les âges du fer en Europe occidentale. Je ne donnerai pas plus de détails puisque je vois qu'il y a des spécialistes de l'âge du fer dans la salle, mais l'acier est repéré, l'acier est utilisé dès la période du Hallstatt, pour ne citer qu'elle. Alors, il y a également une propriété extrêmement intéressante sur laquelle nous reviendrons, notamment pour les armures de ces aciers, c'est qu'ils prennent la trempe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre la trempe? Eh bien, cette propriété consiste, à la suite d'un traitement qui consiste à chauffer le matériau aux environs de 1100 degrés et à le refroidir brutalement dans l'eau, eh bien la dureté va augmenter. Vous avez simplement une courbe ici. Alors, en vertical, c'est la dureté du matériau. À l'horizontale, c'est la teneur en carbone. Et vous voyez que l'acier, quand il n'est pas trempé, c'est l'acier refroidi à l'air. Là, vous voyez la petite courbe. Donc, on a des duretés relativement faibles qui sont Notons-le au passage, même ordre de grandeur que celle des bronzes travaillés à froid. Et quand on trempe l'acier, eh bien, on a une dureté bien supérieure, qui est indiquée par la courbe en haut de ce schéma, qui parle d'elle-même. Et c'est évidemment cette propriété-là qui est très souvent, mais pas tout le temps, nous verrons notamment dans le cas des armures, utilisée et exploitée pour fabriquer des protections, mais également des tranchants d'armes, etc. Alors, à l'issue de ce placement du matériau dans la société médiévale, de sa définition, de son repérage, pour comprendre comment il est produit, comment il intègre les objets, nous voulions souligner avec Catherine que c'était que les études en histoire des techniques qui avaient ce but-là devaient forcément être basées sur une interdisciplinarité extrêmement forte, et que cette interdisciplinarité elle ne date pas d'hier et de la formation des LABEX, mais elle a une histoire qui maintenant est assez ancienne, tu peux en parler.
Oui, parce qu'en fait, tu as insisté là-dessus, et vous également, sur cette nécessaire croisement, en quelque sorte, des disciplines, mais elle est incontestablement constitutive, donc, de l'histoire des techniques, avec naturellement un rapprochement qui s'est fait très rapidement avec l'archéologie, hein, et d'ailleurs, un des premiers numéros des annales consacrés à l'histoire des techniques, pas celui récemment des années 90, mais celui où Marc Bloch avait témoigné de l'importance de l'histoire des techniques, hein, en désignant d'ailleurs l'histoire des techniques, hein, cette histoire qui n'a pas de nom. Hein. Là déjà, il appelait de ses voeux, bien évidemment, le rapport aussi à l'archéologie. Et d'une certaine manière, les tensions qui ont déchiré l'histoire des techniques, je dirais même jusque dans les années 1990, c'est-à-dire entre internalistes et externalistes, hein. Alors, je vous rappelle très rapidement, les internalistes, en fait, c'est ceux qui souhaitent avant tout et exclusivement, on pourrait même dire, reconstituer des procédés techniques, des mécanismes, des machines en elles-mêmes, sans chercher à les inscrire dans une société, hein, contrairement naturellement aux externalistes. Cette démarche, d'ailleurs, elle n'est absolument pas inutile, je dirais même qu'elle est fondamentale, mais elle doit bien évidemment, dans une démarche d'histoire des techniques, correspondre à une première étape, ce qui permet, avant de l'étudier, c'est la moindre des choses, d'identifier une technique. Hein, souvent, les historiens des techniques l'oublient. Et en fait, on peut faire en sorte que cette phase soit aussi une phase d'expertise de la technique. Et c'est bien, d'ailleurs, ce que nous apporte maintenant, en tant qu'historiens, les travaux des archéologues ou des archéomètres, qui nous permettent justement d'expertiser la technique ou d'expertiser, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, un métal, hein, avant de s'interroger sur les modalités de production, hein, en quelque sorte. Hein. Alors, cette interdisciplinarité aussi, au-delà de cette tension entre internalistes et externalistes, hein, elle s'élargit naturellement bien au-delà, hein, de ces rapports dont on a l'habitude maintenant entre histoire et archéologie. Et je voulais juste citer, mais je n'aurai pas le temps d'aller plus loin, je m'en servirai un petit peu plus tout à l'heure autour des gestes techniques, mais bien évidemment les rapports aussi à tout ce qui est ethnologie, anthropologie, et en particulier ce qu'on appelle l'histoire de la technologie ou l'école française de technologie. Alors, s'il vous plaît, ne pas utiliser le terme de technologie dans son sens anglo-saxon, qui n'a rien à voir avec le sens que nous lui attribuons. Je ne vais pas revenir sur la distinction du vocabulaire. Hein. Mais là, effectivement, c'est une grande école de technologie, avec par exemple quelqu'un qui est au moins connu, je pense que Simondon l'est, hein, c'est-à-dire une réflexion aussi sur les gestes et la reproduction des gestes et ce qu'on appelle en fin de compte les savoirs tacites. Donc ne vient pas d'aujourd'hui, bien évidemment, hein, vous voyez que c'est des réflexions à long terme, depuis les années 30 même, hein, mais en ce qui nous concerne, nous, et plus particulièrement donc Philippe et moi, et un certain nombre de personnes ici en face de nous, c'est l'application en quelque sorte de cette démarche à un secteur spécifique de l'histoire des techniques, et d'ailleurs c'en est pas mal sorti du point de vue des résultats, hein, c'est-à-dire celui qui est consacré à tout ce qui est lié à la sidérurgie, fer, métal en général. Hein, effectivement, là, tu as rappelé un certain nombre des grandes équipes, hein, Renomic Pliner, bien évidemment, hein, celle autour de Paul Benoît à Paris 1, et puis, moi venant en quelque sorte de cette seconde équipe, et toi de l'équipe donc autour de Philippe Fusain, hein, à Belfort. Alors, après avoir en quelque sorte placé d'emblée, rappelé en tout cas cette nécessaire démarche interdisciplinaire, je voudrais simplement continuer sur la question des mots, la question du vocabulaire et la question en quelque sorte de la réflexion sur, que peut avoir un historien effectivement sur les mots. Comme l'a dit Philippe, hein, l'acier est un matériau dont les propriétés sont connues et appréciées, hein, depuis la protohistoire. En tout cas, il allie effectivement à la fois résistance et souplesse. Et on a d'ailleurs une très belle description ou définition même de l'acier par un des facteurs du marchand d'Attigny à la fin du XIVe siècle, quand d'Attigny a essayé de contrôler, il n'a pas réussi d'ailleurs, le marché des aciers à Brescia. Et il dit c'est un produit rare qui se tient droit sans un poil de graisse. Et ensuite, lorsque ce matériau également sera défini par Biringuccio, on y reviendra au XVIe siècle, il dit que pour le mieux caractériser en fait l'acier, c'est de le définir, enfin du moins de le qualifier de subtil. Donc ce matériau est bien identifié, il est tout de suite désigné comme sophistiqué, recherché, subtil. Mais la question, bien évidemment, c'est de savoir si cette subtilité de la matière coïncide aussi avec une subtilité dans la désignation de cette matière, dans le domaine des mots. Alors, bien évidemment, il y a des formes génériques sur lesquelles on peut s'appuyer, j'irai rapidement sur le terme calypse, effectivement en latin, avec sa graphie médiévale, sachant que quand même ce terme, dès le début, pose problème, on y reviendra, mais il peut désigner également le fer. Bon. Donc, une ambiguïté lexicale qui va nous suivre, nous poursuivre. Bien évidemment, à ce terme générique de calypse, il faut ajouter, enfin plutôt associer tous les dérivés de bas latin que je vous ai mentionné là, acer, acero, azal, etc. Mais il faut bien voir que là, cette forme générique n'épuise absolument pas l'ensemble du vocabulaire, des désignations, et qu'en fait, souvent, il faut aller un petit peu plus loin pour comprendre justement la diversité des productions, la sophistication également des fabrications. Et pour cela, il faut aller d'abord vers les marchands, vers les métallurgistes, ceux d'ailleurs qu'on désigne aujourd'hui comme des experts, et qui d'ailleurs souvent ont des pratiques d'experts. Donc déjà, dans le marché des aciers, l'acier, même s'il est désigné comme calypse ou acer ou azero, bon, il est toujours celui d'un homme. Il est toujours celui d'un homme ou celui d'un atelier. Ça, Philippe Bronstein l'a bien montré avec le Carteggio d'Attigny sur Brescia. Il n'y a pas de problème. Et derrière, l'association a un atelier, a un homme, a une marque. L'acier à la Campanella, l'acier à la Gamba, c'est-à-dire ces marques d'atelier. Pour nous, si vous laissez une marque, mais pour les gens qui achètent, bien évidemment, il le dit très bien, le facteur d'Attigny, il sait exactement ce qu'il achète en termes donc, de qualité du travail, de qualité des minerais, etc. etc. Donc on est vraiment dans l'économie marchande de l'acier avec toute sa subtilité. Alors, néanmoins, le vocabulaire peut vraiment se dérober et on peut perdre l'acier d'une certaine manière. Et là, je vais quitter le domaine de Brescia, le domaine donc milanais également, pour aller davantage vers le domaine pyrénéen qui nous donne un autre volet, un autre aspect effectivement de cette question du vocabulaire. Effectivement, là, il a fallu quand même travailler pas mal pour arriver à comprendre tout ça. L'acier peut être désigné simplement, on pourrait dire, c'est pour ça qu'on pourrait glisser dessus sans savoir qu'il s'agit d'un acier, comme un fer particulier. Alors, c'est cet écueil, pour l'historien, bien évidemment, il tient à la connaissance de la matière dès le Moyen-Âge, qui aboutit à une assimilation entre le fer et l'acier, selon la tradition aristotélicienne. C'est-à-dire que pour Aristote, effectivement, les deux métaux sont associés et l'acier, ce n'est qu'une des formes, en fin de compte, du fer. Au XIIIe siècle, d'ailleurs, Albert le Grand, dans son Der Mineralibus, a une définition précise de l'acier, tout à fait intéressante. Il définit l'acier comme un fer épuré. Et ce qui est intéressant, c'est que cette désignation de l'acier comme un fer épuré va non seulement être inscrite dans le domaine du savoir, des traités, etc., et repris par Albert le Grand, mais par d'autres. Bon, là, j'ai également moi-même épuré. Cette désignation, elle va, en quelque sorte, circuler et se diffuser dans des milieux qui ne sont pas forcément les milieux savants, les milieux d'université, mais chez les marchands, chez les princes, etc. Et on a ainsi, mais c'est assez rare, dans le cadre d'un procès assez tendu à Toulouse, autour effectivement de la fiscalité, en fait, hein, de l'acier, hein, entre le lieu de production, qui est le comté de Foix, et le lieu de vente, qui est la ville de Toulouse. On a le comte de Foix, donc, qui donne de lui-même, en quelque sorte, au XVe siècle, il est obligé de venir témoigner, il faut qu'il sauve quand même ses revenus, une grande partie de ses revenus, et il dit, mais voilà, nous faisons du fer qui est aussi, aussi bon que de l'acier, et il s'agit d'un fer épuré, c'est-à-dire qu'il utilise exactement cette terminologie dans le cadre du procès, au début du XIVe siècle. Donc cette question de la désignation, hein, de l'acier comme un fer, on la retrouve après à différents niveaux. Alors bon, j'ai donné l'exemple du fer de Foix, je ne vais pas insister beaucoup, mais simplement il s'agit bien d'un acier. Hein. Et là on va retrouver d'ailleurs des désignations par ville qui vont se poursuivre au XVIe, au XVIIIe, au XIXe. Je pense à l'acier de Styrie, hein, les gens qui l'achetaient savaient très bien ce qu'ils allaient acheter. Et puis après, bon, au XVIIIe, l'acier de Sheffield. Là, on est dans un autre type de marché. Mais néanmoins, effectivement, on a là, en quelque sorte, hein, une désignation par lieu de production avec un enchaînement, hein, pour ceux qui achètent l'acier, de tout ce qu'ils savent pouvoir recomposer autour de la désignation. Alors, pour la merlaria, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on est déjà dans un autre domaine. Hein, oui, on peut faire la photo. Alors, la merlaria, si vous voulez, elle apparaît comme un produit soumis à la fiscalité, qui part du cœur des Pyrénées et qui va se vendre à Toulouse. Et là, elle se transforme en calypse. Bon. Donc, c'est assez étonnant. Bon, a priori, on peut savoir qu'il y a sans doute un lien quand même entre cette chose et le calypse. Et en fait, après enquête, hein, on s'est aperçu que la merlaria, en fait, elle désignait le résultat vraiment de la production du bas foyer, hein, dans le bas fourneau, et cette grosse masse, en fin de compte, à épurer que vous avez donc là, et qu'on va épurer dans une première, avec ensuite dans un premier temps, effectivement, on va essayer de faire gicler, hein, vous le connaissez, ce phénomène, bien évidemment, tout ce qui est impureté, charbon de bois qui reste, scorie, etc. On va compacter ça plus ou moins, et puis c'est ça, en fin de compte, qui va circuler. C'est ce semi-produit qui va circuler. Et en fin de compte, cet acier, c'est un acier direct, en relation, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais vous voyez, un produit comme ça, directement, avec du minerai fer et du charbon de bois, dans un bois foyer, hein. Bon, voilà, qui est de très faible ampleur, hein, quand même, vous avez un peu exagéré, vraiment minuscule, mais enfin bon, ça peut être un peu plus gros. Mais enfin, néanmoins, et comment, qu'est-ce qu'on fait après pour obtenir de l'acier? On le fait par fragmentation, c'est-à-dire qu'on fragmente le merlard, hein, on le casse, et cet acier par fragmentation, on va simplement faire des tas. On va reconnaître à l'œil, c'est très intéressant parce que quand on a après des textes d'experts, on voit bien que c'est l'œil qui fonctionne, on reconnaît à l'œil, on reconnaît à la brisure la qualité de l'acier en fonction de la qualité de la brisure et puis aussi de la couleur. Hein. Et d'ailleurs, le texte médiéval est très marrant parce qu'en fait, on n'y comprend rien, il dit il faut un bon expert, il faut un homme précis, enfin, on a cinq lignes là-dessus. Maintenant, on comprend après ce qui se passe, hein, sur cet acier par fracturation et comment on l'a compris, ça, hein, cette enquête, comment j'ai réussi à aboutir à cela, parce qu'un jour, j'ai vu arriver des Japonais qui faisaient de l'acier par fragmentation. C'était simplement, voilà, une démonstration, en quelque sorte, des traditions ancestrales, mais également encore pratiquées, hein, donc de l'éthographie, en quelque sorte, ethnologie. Et mais voilà, on a pu passer de ce texte, merlard, à la question, effectivement, de l'acier. Je terminerai simplement sur le fer cédate, parce qu'en fait, il ne fait que compléter ce que je viens de vous dire sur la production de l'acier par fragmentation. Le fer cédate, c'est aussi un acier. Alors bon, lui, c'est quand même plus facile parce que, en fait, cette désignation a perduré jusqu'au XIXe siècle. Là, il y a des traités au XIXe qui nous permettent de mieux l'approcher. Mais en tout cas, pourquoi cédate? Parce que c'est un fer qui a des cernes, hein, cédès, hein, donc en occitan, hein, c'est un... et des ellipses en quelque sorte, hein, et ces ellipses, bien évidemment, on va le voir avec Philippe, hein, sont aussi la marque de certaines qualités d'acier. Donc vous remarquerez que déjà cette enquête sur les mots en fait n'est pas si simple. En laissant de côté tout ce qui ne serait pas désigné comme calice ou acero, on perdrait pour certaines régions d'ailleurs toute la production, c'est bien simple, hein, on n'aurait pas d'acier. Et qu'en plus, quelles que soient les modalités de repérage, hein, on a, après une enquête historique qui bien évidemment, vous voyez déjà, on le voit avec ces photos, doit être solutionné en quelque sorte par l'apport d'autres disciplines, on a toujours des fers ou des aciers, enfin, on va dire un métal hétérogène. Et c'est ça la caractéristique en fait de ces relations fer-acier.
Oui, alors au passage, vous avez pu noter que nous poussons l'interdisciplinarité jusqu'à faire de l'expérimentation archéologique. Ça se fait le plus souvent sous la plateforme expérimentale gérée par un des chercheurs du LAPA.
Alors, comme le Sèvres.
dans les Deux-Sèvres. Alors, tu nous parlais effectivement de ces mots qui désignent l'acier, avec ce vocabulaire qui se dérobe en quelque sorte, de cette hétérogénéité. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse à l'objet, à la matière en elle-même, donc cette fois-ci avec des méthodes d'analyse physico-chimique, eh bien, on va retrouver exactement le même paysage. Et c'est là que l'interconnexion entre nos deux approches devient extrêmement intéressante. Alors là, je vous ai montré une métallographie, c'est-à-dire une vue au microscope d'un fer. Je vais vous donner un petit cours de métallographie très rapide, comme ça vous pourrez tous en faire à la fin de la journée. Et quand on regarde un acier, donc quelque chose qui contient plus de, en l'occurrence ici, 0,6% de carbone, vous voyez qu'on ne voit pas du tout la même chose, et on arrive à identifier quand le matériau est un fer ou de l'acier. Alors ça, c'est quand on a des matériaux purs qu'on a achetés chez Weber Métaux à Paris au XXIe siècle. Mais quand on va jeter un œil sur les objets archéologiques, eh bien on voit qu'on a en fait, sur un objet lambda, une alternance de zones ici claires correspondant à du fer et de zones sombres correspondant à de l'acier. Alors c'est vrai dans bon nombre d'objets. Ici, ce sont les travaux sur les tirants de cathédrales ou les fers de renfort, les petits goujons qui renforcent les cathédrales. Et vous voyez qu'ici, c'est une coupe de l'objet. Et quand les zones en noir correspondent à l'acier et les zones en blanc correspondent à du fer. Et on retrouve donc cette hétérogénéité, cette difficulté de qualifier de matériaux que tu retrouves dans les textes et que nous avons, nous, en tant qu'archéomètres et en tant que physico-chimistes de la matière. Alors nous avons mis au point, nous, une échelle, simplement, je ne rentre pas dans les détails, mais qui permet, à partir de la mesure de la répartition du carbone dans l'objet, d'exprimer la nature de ce matériau, ferritique, hétérogène, composite, etc. Mais on retrouve exactement le même esprit que dans ton fer CEDA ou dans d'autres terminologies. Donc on comprend maintenant pourquoi ces terminologies pouvaient abonder. Alors pour différentes raisons, il y a des lieux de production, il y a des hommes qui produisent l'acier, mais il y a également toute une arc-en-ciel de matériaux. Alors vous voyez que là, métallurgie de l'hétérogène, quand cette hétérogénéité n'est pas contrôlée. Il faut quand même souligner, et ça va être le cas pour les objets plus prestigieux et de plus grande valeur, que cette hétérogénéité peut être mise à profit, et tu viens de l'évoquer avec cette fragmentation pour la merlaria. Mais l'histoire, et c'est là que je disais, ça va être encore plus déprimant à la suite de mon intervention, peut être encore plus complexe, et je vais essayer de vous illustrer ça sur cette épée damassée mérovingienne qui provient d'Allemagne du Sud et qui m'a été confiée, vous allez voir qu'elle n'aurait peut-être pas dû, par Aurélie von Bieberstein, qui va terminer sa thèse sur les épées justement mérovingienne en Europe occidentale. Pourquoi n'aurait-elle... Alors ces épées damassées, vous le savez sûrement, hein, se reconnaissent par le fait qu'elles ont un décor extrêmement... qui est une prouesse de forge et qui est liée au fait qu'on agence des lamelles de fer et d'acier pour produire ce décor à la surface de l'épée et qui apparaît en Europe occidentale à une période bien précise. Alors on ne pas confondre avec le damas de recristallisation qui correspond à Tolède ou au monde méditerranéen qui est encore une autre histoire. Alors ce que j'ai fait, je tremble de montrer ça devant un conservateur, je disais ça ce matin à Philippe Malguire puisqu'on a eu l'autorisation, c'était une épée archéologique, de la sectionner de part en part. Alors on ne le fait pas sur tous les matériaux, vous allez voir que c'est extrêmement intéressant parce que alors vous retrouvez dans ce matériau évidemment les tranchants qui vous voyez ont une couleur particulière qui semble faite d'un certain type de matériau, donc d'un premier type d'acier. Vous avez un noyau en acier qui est fait en acier doux et hétérogène. Donc un acier moins carburé, et vous retrouvez ce damas avec, on voit très bien ici, hein, l'alternance de ces bandes de fer et d'acier qui ont été agencées de manière extrêmement complexe et qui, là encore, quand on connaît un peu les pratiques de forge, nécessite une habileté pour ne pas perdre la matière, pour pouvoir assembler l'ensemble de ces matériaux. Donc déjà dans l'objet, rien qu'à la découpe et à la lecture de cet objet, on saisit toute une complexité de chaîne opératoire qu'on doit avoir à l'esprit quand on regarde l'arme dans la collection. Alors ça peut aller un peu plus loin, nos investigations, et j'arrête de vous embêter avec ça, c'est qu'on peut regarder la nature des impuretés, la composition des impuretés à l'intérieur de ces matériaux, impuretés qui se sont formées lors de la transformation du minerai en métal, et on voit que dans le damas les bandes de le fer et l'acier n'ont pas les mêmes impuretés, et ça, ça dénote d'une provenance différente, de provenance différente entre le fer et l'acier. Et on peut montrer que les soudures des différentes parties de l'épée sont de différentes natures et ont été faites du fait de ces différences de composition par deux artisans différents. Et ça, ça éclaire complètement cette chaîne opératoire, puisqu'on peut voir que non seulement le matériau peut être hétérogène, mais qu'on peut avoir l'assemblage de différents types de matériaux, des aciers hétérogènes, des aciers plus carburés, du fer pur, qui peuvent être donc achetés à différents centres, assemblés dans des centres intermédiaires. Ça fait penser un peu à ces artisans qui assemblent la garde du corps de l'épée, et que ces produits semi-finis peuvent circuler eux-mêmes, avoir une valeur différente et un nom différent sur les marchés, pour à la fin être assemblé par le spécialiste du damas et de l'épée. Donc non seulement on a des spécialistes de la garde, des spécialistes de la lame, mais là encore, il y a peut-être différentes spécialités dans une même lame ou dans une même armure. Donc ça, c'était pour vous faire sentir un peu toute cette complexité qu'on essaye à la fois de traiter par les textes et par les approches archéométriques sur des objets spécifiques. Alors, ça ne s'arrête pas là, puisque là, je vous ai montré la complexité de la mise en forme et aussi la richesse hein, de ces chaînes opératoires qui permet de produire des matériaux de valeurs différentes, de qualités différentes et appréhender, bien entendu, économiquement et techniquement différemment. On peut remonter encore plus en avant pour l'obtention du métal. Et en fait, vous savez tous que le fer et l'acier ne se trouvent pas de manière native sur Terre, qu'ils se trouvent associés à des oxydes et qu'il faut procéder à une opération de réduction, je ne rentre pas du tout dans les détails, pour obtenir le métal en lui-même. Et qu'en fait, le Moyen-Âge a vu, alors on en discutera, tu remettras ça en perspective, Catherine, mais un changement technique extrêmement important dans les modes de production, puisqu'on est passé du mode dit direct, où on met du minerai, du charbon dans le fourneau, c'est la photo que vous avez vue tout à l'heure, je vous en remontrerai une tout de suite après, l'opération de réduction, la transformation se passe et on obtient de l'acier en sortie, acier masse brute hétérogène, qui pourra être fractionné et trié pour obtenir du fer et de l'acier. Et puis, avec l'arrivée, l'expansion de l'hydraulique aux périodes médiévales, on utilise l'hydraulique pour souffler dans le fourneau, on monte en température et on produit un nouveau matériau qui est la fonte, alors qui permet de faire des moulages, mais qui est fortement chargé en carbone et qui est cassante. Cette fonte nécessite d'être affinée dans une seconde opération pour obtenir, là encore, une masse hétérogène de fer et d'acier. Et on a, entre, on va dire, le 14e, la fin du 15e, ce nouveau procédé indirect qui se répand, tout du moins dans le nord de l'Europe. Vous en avez, alors, procédé direct, vous avez une photographie à gauche d'une restitution expérimentale, on n'a pas encore restitué un haut fourneau. Vous avez donc dû faire appel à la toile d'Henri Blaise du XVIe siècle, la série de tableaux qui représentent ce procédé indirect, le haut fourneau avec sa roue hydraulique et le foyer d'affinerie dans la suite. Donc là encore, ce procédé, alors tu vas revenir là-dessus peut-être de manière un peu plus historique sur l'historiographie de ce nouveau procédé et de l'acier.
Oui, en fin de compte, l'acier, ça nous a permis aussi de réfléchir sur les notions de progrès, en fait, en histoire des techniques. Et surtout de relativiser, en fin de compte, le procédé de réduction indirecte. Hein. C'est vrai que c'était une grande découverte, ce procédé de réduction indirecte. Sans doute, pour certains d'entre vous, on le pense encore, que la fonte, bon, c'est une découverte, effectivement, de la révolution industrielle, dont je vous rappelle quand même qu'elle n'existe plus, hein, en fait. Hein, ça a été complètement repensé autrement. Hein, bon. Et il y a une vingtaine d'années, on s'est aperçu que, vraiment, le procédé de réduction indirecte, c'est-à-dire un passage volontaire par la fonte, et pas par surchauffage et fusion, hein, mais vraiment volontaire, hein, mais on le trouvait sans doute dès la fin du XIIIe siècle, hein, dans les régions rhénanes, hein, et qu'après c'était diffusé, après il y a le procédé wallon hein, qui se diffuse à partir du XVe siècle, mais enfin bon, effectivement l'indirect en plus, il n'est pas monolithique, il y a plusieurs systèmes directs, hein, donc voilà. Et on a vraiment là porté au nu en quelque sorte cette réduction indirecte, hein, c'était vraiment le processus innovant par excellence. En plus, on trouvait bien avec ça correspondait bien avec le modèle de Schumpeter, hein, le modèle de l'innovation dont tout le monde était content. On avait une nouvelle manière de faire, hein, en l'occurrence indirecte par la fonte, et un nouveau produit à fonte. Et tout était merveilleux. Il y a vraiment en plus une reconstitution téléologique du progrès, hein, avec cet indirect du XIIIe comme symbole de la modernité. En fait, à partir de l'acier, on s'est rendu compte que pour des produits très diversifiés, très sophistiqués, on ne va pas y revenir, hein, on procédait, non pas avec ces paliers innovants de rupture fondamentale, comme on avait là, mais aussi, en quelque sorte, avec des combinaisons techniques, pour reprendre le terme de l'acier, plus subtiles, hein, et qui, justement, n'avaient pas recours forcément à l'indirect. Alors pour l'acier, effectivement, je vais le faire très très rapidement, mais pour les différentes productions, je vais en présenter certaines, et après tu le reprendras, hein, bon, en particulier pour la trempe, etc. Mais quand il s'agissait effectivement de fabriquer de l'acier, d'abord on s'est aperçu que la fabrication de l'acier par décarburation de la fonte, selon un procédé en plus le plus commun, celui qui s'est beaucoup diffusé jusqu'à la Grande-Bretagne, etc., c'est-à-dire le procédé wallon, il a très peu d'importance. Je veux dire qu'on ne fabrique pas d'acier, à part dans le Dauphiné, dans les années 1540, où on peut faire de l'acier à partir de la récupération de ce merveilleux procédé indirect, ça ne donne rien. Ce n'est pas grand-chose. Par contre, ce qui va énormément se développer au 14e, 15e et ensuite, hein, c'est effectivement, on en est sûr, hein, cette production par réduction directe, qu'on avait tendance à dire traditionnelle, archaïque, etc., et qui, en fait, avec le procédé par fragmentation que j'ai déjà présenté, hein, va vraiment être une chaîne opératoire très développée. Hein. Alors, je vais pas revenir hein, sur, effectivement, on l'avait là pour le direct à Elba Fourneau, hein, puisqu'en fin de compte, en fonction de la forme de la loupe, hein, en fonction effectivement de la cuisson, etc., on peut avoir des parties plus ou moins carburées et faire, en quelque sorte, hein, par fragmentation, différents tas avec différents types d'acier. Donc ça, j'ai déjà dit. Alors, le dernier élément dont on n'a pas parlé encore maintenant, mais qui correspond bien aux collections 16e hein, dont vous nous avez parlé, qui correspond bien aussi à la région dont elle a été question, la grande région de l'acier, bien évidemment, et du marché de l'acier, hein, c'est-à-dire la zone de Brescia, hein, qui inonde de ses produits dans le Milanais, hein, c'est la technique par la cofusion, donc, dont il est question là en dernier, hein, sur cette liste, hein, qui a été mise en évidence par Biringuccio, dans son traité au XVIe siècle. Alors, c'est quelque chose, c'est un texte très très compliqué, on n'a pas du tout le temps de le voir maintenant dans sa subtilité, également sa complexité. Alors, mais comment on procède hein, quand même hein, tu le reprendras peut-être après si on a le temps sur du point de vue purement plus technique. Hein, cette cofusion, ben, il est là d'ailleurs, oui. C'est-à-dire qu'on va d'abord dans un atelier qu'on appelle Fushina. Mais enfin, Fushina, ça ne veut rien dire parce qu'il y a toutes sortes d'ateliers qui s'appellent comme cela, on le sait maintenant. On va d'abord procéder à un bain de fonte. Hein, et on va plonger en quelque sorte dans ce bain de fonte ce qu'on appelle des mazzelli, ou mazzello, c'est-à-dire des blocs en quelque sorte de fer. Ce fer qui est lui aussi issu du procédé de réduction indirecte, c'est-à-dire par affinage de la fonte. On va brasser, hein, tourner pendant des heures et des heures, hein, de telle façon à ce que dit le texte, le fer prenne, le fer pilia, et que, comme dit le texte, par sa porosité, les substances subtiles qui se trouvent effectivement dans la fonte rentrent dans les mazzelli. Hein. Après, celui qui procède à cet affinage assez complexe hein, peut tirer un à un les différents mazzelli, il les bat au marteau et après, on va y revenir, il les jette dans l'eau, hein, il pratique une forme de trempe, hein, puis au bout d'un moment, effectivement, hein, quand il considère à l'œil que la substance a bien pris, hein, il considère que la réalisation, en quelque sorte, de cet acier par cette façon hein, a abouti. Alors, c'est une description très complexe. Hein, le texte est très compliqué. Hein, là, vraiment, je l'ai horriblement simplifié. Hein, mais incontestablement, on a un procédé qui nécessite une fusion initiale de la fonte hein, au sein d'un creuset. On a après l'ajout donc, de morceaux de métal hein, qu'on va travailler. Hein, et au bout d'un moment, avec cette technique très hybride, on obtient de toute façon quand même un acier vraisemblablement de bonne qualité. Hein, et donc l'apport de la fonte et du procédé indirect, en quelque sorte, on l'a de manière détournée et très complexifiée donc, par ce système de la cofusion qu'on connaît grâce à ce traité. Hein, voilà. Alors, on a d'autres façons de procéder qui relèvent aussi de pratiques très très anciennes, mais qui ne sont pas, qui peuvent paraître simples quand on les décrit, mais qui ne sont pas si simples que ça. Et en particulier, la sémantation, c'était une forme de sémantation, d'ailleurs, la séparfragmentation d'une certaine manière, interne, et puis la trempe, dont il est question aussi comme une des étapes de la cofusion. Donc, je te laisse la parole là-dessus.
En résumé, donc, vous avez pu voir que dans ces magnifiques objets que nous a présentés Philippe Malouire, peuvent, en filigrane, se retrouver un certain nombre de questionnements techniques, notamment sur la façon d'obtenir de l'acier. Donc, on le rappelle, par fragmentation, en diffusant une masse brute hétérogène entre fer et acier, par cofusion, mais également par sémantation. On prend du fer initialement, on le chauffe au contact de charbon, de cuivre ou d'autres types de ciment, comme ça s'appelle. Le carbone pénètre dans le matériau et on obtient de l'acier. On a donc toute cette grammaire, toutes ces conjugaisons possibles qu'il est possible de lire dans un objet de collection ou dans un objet archéologique d'ailleurs. Et à cela s'ajoute le traitement final que j'ai évoqué en début de notre intervention, qui est celui de la trempe. On peut avoir différents types de durcissement d'un même matériau, donc on va recréer un nouveau matériau simplement en le chauffant à 1100 degrés et en le trempant dans l'eau. Donc vous voyez bien que l'ensemble de cette chose pourra, de ces choses, de ces traitements, de cette chaîne opératoire, pourront être lus au sein des matériaux que l'on va étudier et peut permettre de saisir des marchés, mais également de saisir la valeur des objets qui sont collectionnés, imités sur ces marchés. Donc on va arriver donc à ce retour à l'objet.
Oui, on voulait, pour commencer à conclure en quelque sorte notre communication, là, revenir à l'objet, revenir au marché. Alors je vais être assez rapide parce qu'en fait vous avez à partir des objets de collection mis en évidence un certain nombre d'éléments qui sont déjà ceux qu'on a pu étudier à partir d'autres sources, d'autres cartèges, et en particulier parce que c'est vrai que l'armure de ce point de vue là ou les armes permettent bien de saisir la complexité de ces marchés de l'acier. Et ce qui est intéressant avec ce produit, effectivement, vous l'avez dit, c'est que c'est un produit composite, un produit, même à l'origine, je vais dire, un produit d'assemblage, hein, qui a fait l'objet d'un marché international, avec à la fois des objets de commande, des objets neufs, mais qui sont rassemblés, par exemple, dans certains lieux de vente, ou des objets recyclés. Et cela, bon, moi, je le vois, par exemple, dès le Moyen-Âge. Hein. Et là, vous avez donné l'exemple tout à l'heure des producteurs de l'atelier des Négrolis. Et moi, je souhaitais juste évoquer la vente des datines. Alors, les datines, ce n'est pas exactement la même période. On est fin 14e, hein, et ce n'est pas des producteurs, mais bien évidemment, ce sont des marchands. Donc, c'est intéressant. Ils vont essayer de maîtriser la production à Brescia. Ils ne vont pas y arriver. Ça pose un gros problème. Ils ne s'entendent pas du tout avec le maître de forge. Enfin, bon, c'est assez violent même. Hein. Mais par contre, la première boutique que va ouvrir Datini, qui va être à l'origine en fait de sa richesse, hein, il l'installe à Avignon. Et la spécialité, c'est quoi? C'est armure en tout genre, en fait, hein, ou armes en tout genre. Et dans ce cartège, en fin de compte, vous connaissez les sources de Datini, très très riches, hein, concentrées à Prato. Hein, dans l'ensemble de ces sources, hein, on voit apparaître des registres de compte où là, les armes sont enregistrées, où il est bien marqué qu'il s'agit de l'acier, et même parfois plus précisément, l'atelier, etc. Mais à côté de ça, on a tout un bric-à-brac, hein, dont vous parliez également, hein, pour un autre âge et un autre contexte, hein, où on a, en fin de compte, des pièces d'armure recyclées, rachetées, et puis surtout, il est bien indiqué que c'est du fer. Hein. Donc voilà. Toutes ces pièces, en plus, je ne résisterai pas, simplement je dis que ce phénomène est tout à fait visible dès le XIVe siècle. Pour beaucoup d'entre elles, sont copiées. Elles sont copiées parce qu'il y a une mode, aussi, effectivement. On veut des armures à la milanaise. Hein. J'en ai même à Albi qui arrive. Donc voilà. Incontestablement, elles sont selon le modèle milanais, mais ce ne sont pas des objets forcément milanais. Alors la copie, d'ailleurs, qui n'est pas forcément une falsification. Hein, je veux dire, on peut faire des contrats enregistrés chez notaire où on dit qu'on veut à la milanaise et à la genovaise. Bon, avec des modèles comme ça, on sait bien que ça ne sera pas fait à Milan ni à Gênes, mais on veut ce style. Hein. Et donc je crois que pour les armures, alors pas les armures lambda, qu'il ne faut pas oublier quand même. armement. Parce que c'est vrai que dans cette collection, vous avez eu des très très belles pièces. Mais ce qui est intéressant justement dans ces pièces d'armement et d'armure, c'est qu'il y a différents niveaux de marché, différents niveaux de production et différents acheteurs. On ne peut pas développer cela ici, mais c'est ça aussi qui est intéressant. On a vraiment là des objets qui permettent, comme tu l'avais dit au début, de baliser un nombre considérable d'échanges ou de production autour donc, de, ce cas, de ce cas particulier. Voilà.
Voilà. Et donc, pour terminer ce très rapide panorama de la complexité des études interdisciplinaires, mais qui, je pense, peuvent être extrêmement fructueuses également, je voulais rappeler quelques résultats, d'une part, d'Alan Williams, que vous pouvez trouver en détail dans son livre Le Chevalier et le Haut Fourneau, donc tout ce dont on a parlé aujourd'hui, en fait, mais également des résultats issus du laboratoire, de mon laboratoire, qui résonnent avec l'ensemble des thématiques qui ont été abordées dans les deux communications. Et ça, ce sont des résultats sur les armures d'Italie du Nord au XVe siècle, donc Milan, Lombardie et Brescia. Alan Williams a eu la chance de pouvoir analyser un très grand nombre d'échantillons prélevés sur les grandes collections européennes, mais uniquement sur des collections. Alors je ne rentrerai pas dans le détail de l'identification des armures, faute de temps. Évidemment, nous aurons à disposition l'ensemble de ces échantillons pour poursuivre ces analyses. Mais déjà, il a regardé la teneur en carbone, et ce sont les camemberts de gauche. Et vous pouvez voir, donc, quand c'est bleu, c'est du fer. Quand c'est rouge, vous avez un acier un peu carburé, et puis quand c'est vert, vous avez un acier très carburé. Donc on voit que sur ces armures sans marque, il n'y a pas de marque de fabricant identifiée au XVe siècle, on voit qu'elles sont très, très majoritairement faites d'acier, mais ça, c'est la vision qu'on a de la collection.
Voilà.
Donc a-t-on un effet de source parce qu'on n'a que des exemplaires prestigieux, ou est-ce vraiment la production du nord de l'Italie de cette époque-là? C'est vraiment une des questions qu'on peut se poser, d'autant plus que toi, chez Datini, tu vois beaucoup de fer qui est échangé, et puis on voit qu'il y a des petites armures, des petits... Donc là encore, quand on étudie des collections, avoir cette interrogation-là. Et on voit que quand les armures commencent à être marquées, alors elles sont marquées notamment par l'atelier de l'armurier. Alors là encore, les marques peuvent être très complexes, pour avoir une, deux ou trois lettres, qui correspondent à différentes... Enfin, il y a différentes hypothèses, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément validées ou invalidées, vous avez peut-être beaucoup plus de mots là-dessus. On voit que même ces armures... On a un peu le même paysage dans les armures avec marque, où elles sont toutes très carburées, puisque le petit triangle bleu, là, est très faible. Alors, ce qui est intéressant de voir, en revanche, c'est que pour l'immense... Ce sont les camemberts de droite de cet écran. L'immense majorité des armures d'Italie du Nord sans marque, eh bien, ne sont pas trempées. Donc quand c'est bleu, c'est non trempé, et quand c'est rouge ou vert, c'est une trempe plus ou moins bien réussie. Et on voit que les trois quarts des armures qu'il a regardées donc, sont faites d'acier, mais ne sont pas trempées. En revanche, les armures de marque, elles, sont majoritairement trempées. Donc est-ce qu'il y a là une pratique liée à des armures plus prestigieuses? Mais là encore, ce sont des questions qu'on peut se poser. Donc du coup, la propriété principale de l'acier, qui est d'être trempé, n'est pas exploitée ici en Italie du Nord. Alors on l'explique pas forcément. Quand on regarde les armures, on pourra revenir là-dessus, en discuter. Hein. Il y a quelques hypothèses qui ont été émises, je ne peux pas les développer, mais ce sont des points très intéressants à regarder. Quand on regarde les armures allemandes, alors là encore, armure allemande, c'est au sens extrêmement large. Je ne rentrerai pas dans les différents centres de production, hein. Il y a Nuremberg, Augsbourg, etc. Mais on voit que là, le paysage est tout à fait différent, puisque là, on a une majorité d'armures en fer. En tout cas, c'est quasiment moitié-moitié, mais avec une légère majorité d'armures en fer. Évidemment, elles ne sont pas trempées, puisqu'on ne peut pas tremper le fer, on peut tremper de l'acier. Et en revanche, dans des centres de production spécifiques, à partir de la seconde moitié du 15e siècle, eh bien là on voit un paysage complètement différent, notamment ici à Augsbourg. Les armures marquées d'Augsbourg sont toutes faites d'acier, mais pas d'armure en fer, et elles sont toutes, on procède à des traitements de trempe sur l'ensemble de ces armures. Donc là on a des pratiques complètement différentes, des pratiques d'assemblement d'ateliers ou de groupes d'ateliers, là encore cela restera à préciser. Et enfin, quand on s'intéresse aux armures italiennes après 1500, c'est extrêmement intéressant, puisque on continue à avoir des armures faites d'acier. Alors là, c'est là qu'on a des armures qui sont souvent dorées avec des dorures au mercure, des traitements de surface donc, qui permettent d'embellir l'armure. Et on voit qu'aucune de ces armures italiennes qui étaient trempées avant 1500 n'est trempée. on ne pratique plus le traitement. Alors, ce sont souvent des armures d'apparat. On peut se poser la question, mais Alan Williams a émis l'hypothèse, alors j'en ai discuté avec les spécialistes des noms ferreux, notamment Florian Teréchol, qui n'est pas là aujourd'hui, que c'était lié au fait que pour faire une trempe, il fallait chauffer et refroidir. Si cette trempe était faite, et le traitement de dorure à la feuille, dorure au mercure, pardon, nécessite là encore un chauffage et une évaporation du mercure, est-ce que les deux traitements étaient antinomiques? C'est une explication, moi, qui me semble un peu...
Enfin, il y a bien des armures.
Voilà. Exactement, c'est ce qui est illustré en bas du transparent, puisqu'à Augsbourg, on a des armures dorées, tout à fait, qui sont faites d'acier et qui sont pour la plupart trempées. Donc là, on aurait une maîtrise à Augsbourg et pas à Milan, ça mérite quand même d'être un peu creusé. Mais vous voyez que de cette armure, alors déjà qui peut être composite d'un point de vue de la totalité de l'armure en elle-même, elle peut également l'être du point de vue de l'acier, elle peut avoir en elle, je dirais, différents gestes techniques. Alors je vais vous montrer maintenant, pour terminer, les travaux d'Émilie Bérard, qui, lors de son stage de master avec Enrique Vega, qui ont été faits au LAPA, sur les quelques échantillons fournis par Alan Williams, et où nous avons mis au point une méthode qui permet de distinguer si le métal a été obtenu à partir du procédé direct, donc l'ancien procédé, on pourrait évoquer les différentes nuances, et où le procédé indirect, donc ce procédé en deux étapes qui passe par la filière fond, qui inclut, je pense, la cofusion. On en discutait précédemment avec Catherine. Et on voit que c'est très, très intéressant, puisque la première occurrence d'indirect, alors là encore, ça demandera d'être complété par la suite, n'arrive qu'à la fin du XVIIe siècle, et que c'est vraiment, pour l'Italie, c'est vraiment ce procédé direct, donc dit archaïque, qui est lié à la production d'armures, notamment les armures du Nord. Alors le paysage en Allemagne est peut-être légèrement différent, puisqu'on voit l'indirect arriver à partir de 1550, mais là encore, c'est relativement tardif par rapport à ce qu'on sait de la diffusion de ce procédé. On a donc peut-être bien l'emploi ici spécifique d'un métal, d'un acier, issu d'un certain type de procédé de réduction. Il faudra réfléchir pourquoi. Alan Williams pose l'hypothèse d'armures prestigieuses versus les armures de troupes qui, elles, seraient produites avec le procédé indirect qui permettrait de faire des grands volumes de matière à moindre prix. Mais là encore, c'est une hypothèse qui demandera à être testée au travers des objets de collection. Et enfin, je terminerai avec toutes les précautions qui s'imposent, sur quelques résultats obtenus sur la provenance du métal. Alors vous voyez, vous retrouvez la même pièce qui a été montrée, ça c'est celle de la Wallace Collection, mais qui peut être mise en lien avec certaines pièces du livre, et c'est celle qui est en couverture du livre qu'on peut remontrer, où nous avons pu tester la compatibilité de la composition des impuretés dans les armures avec les minerais du nord de la Lombardie qui auraient pu alimenter notamment Milan, Brescia, qui auraient pu servir à fabriquer le métal de ces armures. Et sur quatre échantillons dits milanais, eh bien, il était possible de prouver qu'au moins deux d'entre eux n'avaient pas cette provenance, en tout cas des minerais du nord de l'Italie. Vous avez bien vu que l'interprétation était extrêmement complexe, avec les échanges, le milanais espagnol, etc. Il faut évidemment avancer avec prudence. Et ça illustre bien le fait que si on avait fait simplement des analyses physico-chimiques sans environnement historique, on n'aurait absolument rien compris. Et inversement, les analyses physico-chimiques permettent d'éclairer des interprétations sur certaines pièces. Donc voilà, j'ai montré un peu, finalement, le menu du programme de recherche qu'on voudrait développer dans les années à venir, qui vont finalement faire se croiser des approches sur les collections, mais également en histoire des techniques. Alors on espère poser un sujet de thèse à Patrima, on verra bien, vous voyez que cela peut sous-tendre une recherche extrêmement motivante et qui va éclairer vraiment différents aspects, à la fois de l'histoire de la collection, de la nature de ces collections, mais également en histoire des techniques.
Voilà. Une dynamique déjà qui est bien lancée.